VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. RDC, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, de nouveau pointées du doigt. Dans un nouveau rapport, l'ONU accuse l'armée et la police congolaise d'avoir délibérément tué des civils en décembre dernier lors des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Mais Kinshasa rejette ces accusations. Jacques Aristide.
C'est un document de 24 pages du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme en RDC qui dit s'appuyer sur des preuves crédibles recueillies sur le terrain. Entre le 15 et le 31 décembre 2016, au moins 40 personnes ont été tuées et 147 autres blessées dans plusieurs villes du pays. Le rapport de l'ONU indique que la plupart des victimes étaient des civils non armés, blessés par balles, résultant d'un usage disproportionné de la force et de l'utilisation de balles réelles, en particulier par l'armée, dont les soldats de la garde républicaine et de la police militaire, qui ne sont ni équipés ni entraînés pour les opérations de gestion des foules. L'ONU signale également qu'à la même période, au moins 917 personnes ont été arrêtées par les agents de l'État. En réaction, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, dit que l'accès aux camps militaires n'a pas été accordé aux membres de ce bureau onusien pour des raisons de sûreté de l'État et de secret défense, et de dénoncer ce qu'elle appelle la tendance partisane du rapport à vouloir charger par complaisance les forces de défense et de sécurité de la RDC alors que la police est restée professionnelle, dit-elle.
Tchad, matinée tendue à N'Djamena entre les étudiants et la police suite à la condamnation hier de 69 étudiants à un mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État. Des étudiants qui avaient perturbé une visite ministérielle alors que les universités sont en grogne contre la suppression des bourses. Tatiana Mosso.
La réaction de l'Union nationale des étudiants tchadiens ne s'est pas fait attendre. Réunis ce matin en Assemblée générale, ils ont voté pour la suspension des cours dans toutes les universités du pays pour exiger la libération des étudiants condamnés la veille. Dans la foulée, plusieurs groupes d'étudiants se sont rendus dans différents quartiers de N'Djamena pour faire sortir les élèves des salles de classe. La police est intervenue, les échauffourées ont fait au moins un mort et 18 blessés selon une source policière. Les 69 étudiants ont été condamnés suite à la visite sur un campus du ministre de l'Enseignement supérieur, Makaya Santaïso. Il a été hué par les étudiants qui ont lancé des pierres sur les voitures officielles. La police est intervenue pour les disperser de manière musclée avec des grenades lacrymogènes. Les étudiants tchadiens sont en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement qui se sont traduites par la suppression de leurs bourses. Pour l'heure, le calme est revenu, mais le mouvement de grève est maintenu.
Au Burkina Faso, le groupe Ansarul Islam de Malam Ibrahim Diko a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans la nuit de lundi à mardi de deux commissariats de police dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Attaque qui intervient deux mois après celle ayant coûté la vie à 12 soldats burkinabés dans le même secteur. Pour une analyse, Idriss Fall a joint l'ancien journaliste Ibrahim Maïga à Saint-Cloud, dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
Malam Ibrahim Diko, c'est un prédicateur de la zone du Soum, la province où les attaques se perpétuent couramment au niveau du Burkina Faso. Et c'est quelqu'un qui a fait une partie de ses études coraniques au Mali et une autre partie au Niger, puisqu'il a beaucoup séjourné à Niamey.
Apparemment, il avait pignon sur rue dans la ville de Djibo.
Effectivement. En fait, en 2012, il avait été arrêté par l'armée française lors d'une opération. Il a été libéré deux ans après avoir été détenu à Bamako. Il est revenu à Djibo, où sur une radio locale, il faisait des prêches en permanence.
Mais à partir de quand s'est-il radicalisé alors?
Il a toujours été très radical. Le radicalisme dans nos zones, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est le fait qu'il ait pris les armes qui a mis à lumière la situation.
Et qu'est-ce qu'il veut donc? Est-ce que c'est le djihadisme tel qu'on le connaît au niveau de Al-Qaïda? Ou bien c'est comme Amadou Koufa au Mali?
Il est très lié à Amadou Koufa. Il joue sur la cible ethnique. Il a les mêmes ambitions parce que pour lui, la seule chose qui est acceptable dans la zone, c'est d'avoir l'islam comme principale religion. Et aucune autre religion ne peut être tolérée ou acceptée dans la zone. Donc c'est les mêmes ambitions en quelque sorte, sauf à l'exception près que lui, il parle d'instaurer le Djelgoudi. Le Djelgoudi, c'est un sous-groupe ethnique peuple qui avait un territoire dans la zone de Djibo dans les temps anciens. Il parle de restauration du Dalgoji et de l'indépendance du Dalgoji pour l'islamiser.
En fait, un djihadisme bien local et bien burkinabé.
C'est un djihadisme purement local et largement ethnique.
Ibrahim Maïga, ancien journaliste basé à Saint-Cloud dans l'état du Minnesota.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le président Donald Trump s'est adressé hier soir à Washington aux deux chambres du Congrès américain réunies en session conjointe. Loin de la tonalité de son discours d'investiture, le chef de l'exécutif a présenté sobrement les grandes lignes de sa politique, dont le thème central est « donner la priorité aux Américains ». Le compte-rendu de Nicolas Pino, qui était sur place au Capitole.
Oui, le 45e président des États-Unis a pris de la hauteur cette nuit pour ce discours prononcé devant le Congrès américain. Loin des accents belliqueux et des polémiques qui rythment le début de son mandat, Donald Trump a d'abord appelé l'Amérique à l'unité en dénonçant notamment les attaques contre les centres communautaires juifs du pays ou la mort de deux Américains d'origine indienne tués dans ce qui semble être un crime raciste.
Well, we may be a nation divided.
Nous sommes peut-être une nation divisée sur la politique. Nous sommes un pays qui reste uni pour condamner la haine et le mal dans toutes ses formes les plus affreuses. Je suis là ce soir pour délivrer un message d'unité et de force, et c'est un message délivré du plus profond de mon cœur.
Le président Trump a rappelé l'une de ses promesses de campagne et promis de créer des millions d'emplois aux États-Unis. Il demande ainsi au Congrès de valider un plan de 1 000 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, le président Trump annonce que le mur à la frontière mexicaine sera bientôt construit. Il affirme aussi que la politique migratoire américaine va changer pour se tourner vers une immigration choisie. Au mérite. Alors que Donald Trump demande au Congrès une hausse du budget de la défense de 54 milliards de dollars, le président américain a redit hier sa volonté de vouloir détruire l'organisation État islamique qui résiste toujours en Irak et en Syrie.
Dans leur réponse au discours du président Trump, les démocrates, par le biais de l'ancien gouverneur du Kentucky, Steve Beshear, se sont engagés notamment à créer des opportunités de réussite pour tous les Américains à travers une croissance économique génératrice d'emplois bien payants. Le président Donald Trump a donc annoncé une augmentation substantielle, 54 milliards de dollars, du budget de la défense américaine pour, dit-il, rebâtir l'armée américaine et lui donner les moyens de prévenir les guerres et de les gagner si elle doit se battre. Il a aussi dit qu'il réduira les dépenses américaines à l'étranger pour investir dans les projets intérieurs ici même aux États-Unis. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Brett Buran, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room.
Il y a dans le Congrès certains membres qui voudraient augmenter le budget de défense, mais en même temps, il y a, je dirais, une majorité, surtout républicaine, qui ont toujours suivi une politique plus conservatrice en termes budgétaires. Et le projet que Trump vient de mettre sur le budget, je crois qu'on aura des difficultés à trouver de support parmi les membres du Congrès.
Le président Trump a dit que les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards au Moyen-Orient, alors que cet argent aurait pu être investi ici aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour sa politique étrangère, notamment l'aide au développement?
Je crois que le président Trump cherche des retours sur les investissements que le gouvernement américain fait, on peut dire, immédiat en termes de compromis ou d'autres bénéfices économiques que le gouvernement américain pourrait présenter pour justifier ses engagements. Et ça, c'est vraiment une politique nouvelle pour les États-Unis parce qu'auparavant, il y en a des investissements pour le long terme parce que nous savions ces initiatives, ces investissements, ils étaient nécessaires pour le développement de certaines régions du monde, soit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, ou bien en Afrique pendant les années récentes.
Brett Buran, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room à Alexandria en Virginie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.